Bon ben, bonjour à tous, merci d'être présents. Alors, comme introduction, je vais un peu rapidement me présenter. Donc, je m'appelle Victoria Ostrate et en 2019, j'ai été élue au Parlement bruxellois. Et donc, je suis députée indépendante, je n'ai pas de parti politique. Et ça s'est fait un petit peu par hasard. Je ne m'intéressais pas du tout à la politique. J'avais vraiment très peu d'espoir en la politique, en réalité. Et si je me suis retrouvée au Parlement, c'était un peu parce que j'ai accepté de me présenter pour une liste animaliste, Dire Animal. Et je pensais à cette époque-là que c'était vraiment juste une aide que j'offrais à ce parti et que ça ne m'engageait pas à grand-chose. Donc j'ai été un peu surprise de me retrouver au Parlement. Et puis, à cette époque-là, c'était aussi pour nous l'intérêt de cette liste et de se présenter aux élections. C'était pour montrer aux autres partis que la question animale, l'antispécisme, la défense, la protection des droits des animaux, ce sont des thématiques qui sont importantes et que ce sont des thématiques que les citoyens soutiennent et qu'ils veulent voir dans les enceintes politiques. Donc c'était aussi pour pousser les autres partis à déposer des programmes qui parlent justement de la protection des animaux. Alors depuis 2019, forcément, j'ai appris beaucoup de choses sur le fonctionnement du Parlement bruxellois et sur les droits des animaux en région bruxelloise. Donc je vais essayer de vous en parler dans les grandes lignes et de vous apprendre tant que je peux ce que j'ai appris en 4 ans en 30 minutes. Voilà. Alors, premièrement, par rapport au Parlement bruxellois, donc on le sait, la Belgique est un millefeuille institutionnel. Donc je ne vais pas vous faire un mauvais coup et vous faire un exposé là-dessus, ce serait trop rébarbatif. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'il est possible d'aider les animaux aux différents niveaux de pouvoir. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Au niveau européen, on va avoir toutes les règles qui concernent, par exemple, l'expérimentation animale. On va avoir aussi toutes les normes d'élevage dans l'Union européenne. On va avoir le transport d'animaux vivants. Au niveau fédéral, on va avoir plutôt ce qui est la compétence du commerce. Donc là, on va pouvoir potentiellement agir sur le commerce d'animaux ou de produits d'origine animale. On va avoir aussi le code civil, donc le régime juridique qu'on va appliquer aux animaux en Belgique, ou encore la possibilité d'inscrire les animaux dans la Constitution. Au niveau des communes, on aura plus les questions de gestion des populations. Donc, ce sera plutôt des questions de stérilisation des chats errants ou encore de gestion des populations de pigeons. Donc, à chaque niveau de pouvoir, les compétences sont différentes, mais il est possible à tous les niveaux d'agir en faveur de la protection des animaux. Et si en 2019 j'ai accepté de me présenter sur une liste régionale, c'est parce que en 2014 la compétence du bien-être animal a été régionalisée. Donc il y a eu ce qu'on appelle une modification des compétences et il y a eu une régionalisation de la compétence du bien-être animal qui est passée de l'État fédéral aux régions. Alors, concernant le Parlement bruxellois plus spécifiquement, il est composé de 89 élus qui sont dispatchés en fonction de leur parti et de leur appartenance à la majorité ou à l'opposition. Donc, dans les faits, clairement, les partis de la majorité vont avoir plus de poids, plus de pouvoir, vu que c'est eux qui vont avoir des ministres qui vont former le gouvernement. Donc, pour petit rappel, pour info, à Bruxelles, il s'agit de DEFI, Écolo, PS, Groen, OpenVLD et One Brussels. Alors, en pratique, quels sont vraiment les rôles des parlementaires? Ils sont de deux ordres. Premièrement, il s'agit de contrôler le pouvoir exécutif. Donc là, ça va être questionner les ministres, voir ce que le gouvernement fournit comme travail. Et le deuxième rôle, c'est l'initiative législative. Donc c'est vraiment créer et voter les lois qu'on appelle ordonnances en région bruxelloise. Alors en pratique, on me sollicite souvent pour que j'interroge des ministres sur différentes problématiques. Et c'est très bien. Et ce que je vois qui étonne souvent les citoyens, c'est le fait que le travail parlementaire est vraiment soumis à des règles contraignantes. Donc pour vous donner quelques exemples, on ne peut pas poser de questions au ministre sur ses intentions. On ne peut poser des questions que sur le travail qui a déjà été fourni. On va être limité en termes de taille de l'interpellation, en termes de temps de parole. On ne peut pas poser une question sur une thématique, une problématique qui a déjà été abordée dans les 3 derniers mois. Donc voilà, il y a toute une série de règles qui sont assez étonnantes quand on arrive au Parlement et qui encadrent vraiment sérieusement le travail parlementaire. Mais la frustration est plus grande du côté de la création des lois. Parce que là, clairement, c'est un chemin qui va être long. Donc entre le dépôt de la proposition et son adoption, on va avoir entre 1 à plusieurs années. Et il y aura beaucoup d'obstacles et de blocages. Donc c'est un travail vraiment de longue haleine et assez frustrant, il faut bien le reconnaître. Alors concernant les droits des animaux en région bruxelloise, alors donc je l'ai dit, au Parlement bruxellois, on a la fameuse compétence du bien-être animal. La réalité du terrain en région bruxelloise est très différente de la réalité du terrain en région flamande et en région wallonne. Nous n'avons pas du tout les mêmes problématiques. Alors, de quels animaux parle-t-on et quelle est la législation? Donc, premièrement, et je rejoins Tobias sur cette question, là où il y a le plus de souffrance animale en termes de nombre d'individus, c'est évidemment les animaux d'élevage. Alors, la particularité de Bruxelles, dès lors, c'est que le plus grand impact négatif sur les animaux de la région va être un impact indirect. Parce qu'on n'a pas énormément d'élevage en région bruxelloise, on a une économie qui est tertiaire, donc le problème sera vraiment posé de manière indirecte pour les animaux qui sont utilisés dans l'élevage pour la consommation humaine. Alors il faut savoir qu'en Belgique, en moyenne, 310 millions d'animaux terrestres sont tués par an rien que pour la consommation. Donc l'écrasante majorité provient bien évidemment d'élevage industriel suivant des conditions et des méthodes que vous connaissez. Donc à Bruxelles, je l'ai dit, l'économie est tertiaire. Par contre, les Bruxellois, évidemment, consomment des animaux. Donc le problème est vraiment cette utilisation indirecte des animaux. Pour donner un exemple d'ordre climatique, le gouvernement bruxellois a estimé qu'à Bruxelles, les émissions indirectes de gaz à effet de serre sont 5 fois supérieures aux émissions directes de la région. Donc ça veut dire que c'est via vraiment notre consommation qu'on a le plus grand impact négatif. On produit assez peu dans la région, donc on produit assez peu de gaz à effet de serre de manière directe, mais indirect, c'est 5 fois supérieur et c'est clairement aussi dû à la consommation de produits d'origine animale. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est impuissant face à cette souffrance qui est produite à l'extérieur de la région. On a identifié quelques moyens d'action. Alors, la première possibilité, c'est évidemment d'agir sur la consommation, sur l'alimentation des Bruxellois. Alors, depuis quelques années, le gouvernement bruxellois promeut sa stratégie Good Food. Donc, c'est le nom de sa politique qui vise à favoriser via plusieurs canaux une alimentation plus durable pour les Bruxelloises et pour les Bruxellois. Donc, notamment dans les cantines de collectivités. Et ce qui va être promu dans cette stratégie Good Food, c'est tout ce qui est alimentation bio, circuit court, mais aussi il y a la promotion des protéines végétales. Donc évidemment, c'est trop timide, surtout face aux enjeux, mais c'est quand même une stratégie qui est importante et mon travail au Parlement, c'est aussi de plaider pour que ces objectifs soient rehaussés. Alors la deuxième possibilité, c'est d'agir sur la vente des produits d'origine animale. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, le commerce est une compétence de l'État fédéral. C'est pour cette raison que, par exemple, le ministre en charge du bien-être animal en région bruxelloise a fait interdire l'utilisation des pièges à colle, mais qu'on continue d'en trouver dans le commerce. Alors, je n'ai pas la même lecture que lui par rapport à cette différence entre les compétences de l'État fédéral et de la région. La séparation des compétences n'est pas aussi simple et aussi stricte. Par exemple, il existe une théorie des compétences implicites. Cette théorie permet à un niveau de pouvoir de déborder un peu sur les compétences d'un autre niveau de pouvoir pour atteindre un objectif qui est pleinement dans les compétences de la région. Donc j'ai un exemple très simple par rapport à ça, c'est le foie gras tout simplement. Donc le gavage est interdit en région bruxelloise pour la raison évidente que ça cause énormément de souffrance. Donc cette pratique est illégale, mais le produit de cette pratique n'est pas illégal puisqu'il est toujours en vente. Donc j'ai déposé un texte pour interdire la vente de ce produit issu d'une pratique illégale et le Conseil d'État a été interrogé sur la possibilité d'une région d'agir sur la vente d'un produit. Et le Conseil d'État a donné son feu vert en expliquant que pour que la mesure de l'interdiction du gavage ait un effet, pour qu'on puisse obtenir cet objectif de bien-être animal, on est obligé de passer par cette compétence du commerce et on est obligé de légiférer en matière de vente. Et donc, la région peut interdire la vente de certains produits. Et donc, ça ouvre la porte vraiment à beaucoup de possibilités. Ça ouvre la possibilité vraiment, dans un premier temps au moins, d'interdire les produits les plus cruels. Et c'est pour cette raison que je vais déposer un texte pour interdire la vente de fourrure et que je plaide auprès du ministre en charge du bien-être animal pour justement se saisir pleinement de cette compétence et interdire la vente de certains produits. Alors la troisième possibilité, elle repose sur le positionnement de la région. Donc là, lorsque une problématique ressort de la compétence d'un autre niveau de pouvoir ou d'une autre région, on a quand même une possibilité d'action qui est le dépôt d'une proposition de résolution. Alors une proposition de résolution, c'est le Parlement qui demande au gouvernement de se positionner sur une question et d'influencer l'institution qui est compétente en la matière. Donc là aussi, j'ai un exemple très concret. J'ai déposé un texte pour demander au gouvernement bruxellois de demander au Conseil de l'Union européenne de mettre en place des mesures pour interdire le transport d'animaux vivants sur de longues distances. Et bonne nouvelle, ce texte a été adopté. Alors une quatrième et dernière possibilité qu'on a identifiée, c'est de restreindre, d'agir sur la publicité. Donc clairement, la publicité, ça nous conditionne, ça nous pousse à certains comportements d'achat, parfois même de manière subliminale. Et on estime que les citoyens sont confrontés à pas moins de 1200 publicités par jour. Donc immensément plus que les informations concernant le dérèglement climatique et les moyens de le tempérer. Pour cette raison, j'ai déposé un texte qui vise justement à interdire la publicité des produits polluants. Et parmi ces produits polluants, évidemment, il y a la viande et les produits d'origine animale. Donc tout ça concernait l'impact indirect de la région sur les animaux d'élevage. Est-ce qu'il y a moyen de faire pour contrer cette problématique? Mais ce serait une erreur de penser que la souffrance animale se passe uniquement à l'extérieur des frontières de la région. Il y a des animaux qui souffrent directement dans la région bruxelloise. Alors, en région bruxelloise, on a la loi de 86 relative à la protection et au bien-être des animaux qui stipule dans son article 1er au 1er alinéa qu'un animal est un être vivant doué de sensibilité, de propres intérêts et d'une propre dignité qui bénéficie d'une protection particulière. Mais dans les faits, évidemment, les animaux continuent de souffrir. Citons les nombreux animaux de laboratoire. Ceux qui sont tués à l'abattoir d'Anderlecht, les équidés qui sont utilisés pour le divertissement des touristes, les animaux domestiques maltraités, les nacs vendus en animalerie, ou encore tous les animaux liminaires, donc les pigeons, les chats errants, les renards, les rats, etc. Toutes ces catégories représentent potentiellement des centaines de milliers d'animaux. Alors je ne vais évidemment pas faire une présentation exhaustive sur toutes les lois qui s'appliquent à tous ces différents animaux. Alors concernant les animaux liminaires, donc ce sont les animaux qui ne sont ni totalement domestiques ni totalement sauvages. Ils vivent en liberté en ville. Donc il s'agit des rats, des renards, des chats errants et des pigeons urbains par exemple. Tout d'abord, il convient de rappeler que la chasse est fort heureusement interdite sur le territoire de la région bruxelloise. Alors, beaucoup de personnes pensent qu'il existe une liste des nuisibles qui serait et que dans cette liste de nuisibles, il y aurait les rats, les pigeons urbains. C'est faux. Il existe une liste des organismes nuisibles. Il existe une liste des espèces exotiques envahissantes. Mais le renard, le rat, le pigeon urbain, ce sont des animaux indigènes à la région. Et pour cette raison, ils bénéficient d'une certaine forme de protection. Donc, en effet, les espèces indigènes, donc celles qui sont originaires de la région, elles ont une protection plus ou moins étendue grâce à l'ordonnance de 2012 relative à la conservation de la nature. Cependant, certaines espèces sauvages, donc typiquement le rat brun et la souris grise, bénéficient d'une protection moindre dans cette ordonnance. Il est possible de les capturer et de les mettre à mort, mais uniquement via une dérogation, qui est une autorisation légale octroyée par Bruxelles Environnement. Il faut savoir que c'est nominal, c'est publié au Moniteur belge, c'est temporaire, donc il y a vraiment toute une série de conditions à remplir. C'est pas quelque chose qui se fait rapidement, donc ils ont quand même une certaine forme de protection, mais pas encore assez élevée. Et jusqu'à récemment, c'était encore le cas des pigeons urbains. Donc il était encore possible d'obtenir une dérogation de l'administration pour les capturer et les mettre à mort. Et c'est ce que la SNCB et la STIB faisaient. Alors ils ne peuvent plus le faire parce que j'ai déposé un texte pour interdire cette possibilité d'obtenir une dérogation pour les pigeons urbains. Et ça a été voté, ça a été adopté heureusement par le Parlement. Mais donc, il reste encore le cas des rats et des souris qui font encore l'objet malheureusement de campagnes d'extermination avec des rodenticides qui sont évidemment particulièrement cruels. Donc en plus, on ne sait même pas si c'est réellement efficace. Et au Parlement, je plaide vraiment pour qu'il y ait un changement de paradigme, qu'on cherche à savoir si il est vraiment nécessaire dans l'intérêt de l'animal de réduire sa population. Et si c'est le cas, que la solution soit la stérilisation ou la contraception et rien d'autre. Alors ensuite, il y a l'expérimentation animale qui reste un problème majeur de souffrance animale, y compris à Bruxelles. En 2021, les laboratoires de la région ont utilisé et tué pas moins de 55 000 individus. Alors les statistiques ont baissé depuis 2015, mais rien n'indique que ça ne pourrait pas repartir à la hausse. Et d'ailleurs, l'année dernière, ce chiffre a stagné. Alors le gouvernement bruxellois subsidie la recherche de méthodes alternatives, donc sans utiliser d'animaux. C'est une bonne chose, mais ce n'est évidemment pas encore suffisant. Je plaide pour que le gouvernement fixe des objectifs vraiment chiffrés de diminution annuelle d'animaux utilisés dans les laboratoires, donc une politique qui viserait à mieux encadrer les projets de recherche acceptés. Alors, s'il n'y a pas beaucoup d'élevage à Bruxelles, on a évidemment encore l'abattoir d'Anderlecht, qui tue chaque année environ 50 000 individus et la plupart sont abattus sans étourdissement préalable, donc de la manière qui produit le plus de souffrance possible. Alors, vous avez certainement appris le rejet de la loi qui proposait de rendre obligatoire l'étourdissement avant chaque abattage. Alors, au-delà de cet enjeu, il y a aussi la question de la vidéosurveillance. Il faut savoir que des caméras sont installées à différents endroits clés de l'abattoir, mais ces vidéos ne sont pas accessibles aux organisations ou aux parlementaires. Alors qu'on sait qu'il y a eu des infractions, on sait qu'il y a eu une mise en demeure de l'abattoir pour donc mauvais traitement. Donc une de mes demandes, c'est vraiment de rendre public ces enregistrements, de rendre public les rapports d'inspection. Et ça fait l'objet d'un texte que je déposerai bientôt au Parlement. Ensuite, il y a le commerce des nacs, qui est aussi un énorme problème dans la région, parce que ça concerne potentiellement des dizaines de milliers de rongeurs, oiseaux, reptiles et poissons. Alors je dis potentiellement à escient parce que c'est une problématique qui est caractérisée par le vide juridique et informationnel Personne ne sait, pas même le gouvernement, pas même l'administration, de combien d'individus on parle. On ne sait pas dans quelles conditions ils ont été élevés, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas dans quelles conditions ils ont été transportés. Les animaleries telles que Tom & Co. n'ont pas l'obligation de consigner l'origine des animaux qu'ils vendent. Donc il n'y a vraiment aucune règle qui entoure ce business. Et en 2020, j'avais déposé un texte avec plusieurs autres parlementaires, un long texte qui listait une série de mesures vraiment concrètes pour encadrer cette problématique. Et malheureusement, ce texte a été rejeté. Mais j'espère que ces idées feront quand même leur chemin. Et puis, une autre problématique pour les NAC, c'est le fait qu'on les vend aussi sur les marchés et qu'il y a des achats impulsifs qui se font sur les marchés, surtout spécifiquement pour les NAC. Donc, il faut savoir que sur les marchés à Bruxelles, on ne peut pas vendre les chiens et les chats, mais ce sont les deux seuls animaux qu'on ne peut pas vendre. Donc, j'ai déposé un texte pour qu'on ne puisse plus vendre d'animaux vivants, tout simplement, sur les marchés bruxellois. Alors, il y a aussi la question des chiens et des chats qui pose problème. Alors, pour ce qui concerne les chats, c'est évidemment la question des chats errants qui ont une vie de misère dans la rue. Alors, malgré la stérilisation qui a été rendue obligatoire il y a quelques années, les trappeuses continuent de tirer la sonnette d'alarme parce que le nombre de chats non stérilisés ne diminue pas. Donc il y a d'une part les personnes qui ne sont pas au courant de cette législation, donc il faut des campagnes de sensibilisation, mais il y a aussi les personnes qui refusent de stériliser leurs chats. Donc je plaide au Parlement pour qu'on passe vraiment la vitesse supérieure et qu'on applique un régime vraiment de sanctions contre les personnes qui sont en défaut de stérilisation de leurs chats. Concernant les chiens, en région bruxelloise, la problématique sera plutôt liée aux conditions de détention des chiens. Donc typiquement, ce qu'on va avoir, ce sont des chiens qui sont détenus toute la journée dans une cage ou dans un box ou qui sont continuellement attachés à une corde. Alors j'ai déposé une proposition là aussi pour interdire ces pratiques et le texte n'a pas encore été débattu, mais j'espère une issue favorable. Mais pour appliquer toutes ces règles, pour vérifier l'application sur le terrain, il faut des fonds et il faut du personnel. Alors le budget de la région pour le bien-être animal, il est de 2,5 millions. On pourrait se dire que c'est beaucoup, mais en réalité, c'est 1% du seul budget global pour la protection de l'environnement. C'est une goutte d'eau. Et en pratique, ça correspond essentiellement à 5 inspecteurs vétérinaires qui, sur tout le territoire de la région, sont chargés de vérifier tous les lieux où des animaux sont détenus. Donc l'abattoir, les laboratoires, les refuges, suivre les plaintes des particuliers pour les cas de maltraitance et de négligence animale, mais aussi octroyer les agréments, les dérogations. Donc c'est un travail gigantesque. Alors j'en viens à ma troisième et dernière partie, qui est l'animalisme politique. Donc dans cette partie, on va plus largement aborder cette question de l'animalisme politique avec cette question, quelle est au final l'utilité d'agir pour les animaux au niveau politique? Alors premièrement, je dirais que c'est tout simplement une question de démocratie. Donc beaucoup de sondages ont été effectués ces dernières années en Belgique et ailleurs en Europe pour connaître les attentes de la population à l'égard de la protection des animaux. Donc on voit ici par exemple les résultats d'un eurobaromètre, donc un sondage qui a été réalisé à l'échelle de l'Union européenne et qui montre que déjà en 2016, 94% des personnes qui ont été sondées disaient qu'il était important d'assurer la protection pour les animaux. Au-delà des préoccupations générales, on voit que les citoyennes et les citoyens sont demandeurs de mesures concrètes. En Belgique et à Bruxelles, des sondages ont été effectués. Ici, c'est un exemple d'un sondage qui a été effectué par Ipsos à la demande de Gaïa en 2019. Et on y apprend notamment que 81% des personnes sondées sont en faveur d'une interdiction de la vente de fourrure et 67% sont en faveur d'une interdiction de la vente de foie gras produit au moyen du gavage. En France, il y a une série de sondages qui ont aussi été conduits, notamment sur la question de la végétalisation de l'alimentation. Et là aussi, on voit que les attentes citoyennes sont importantes à ce niveau-là. D'ailleurs, À Bruxelles, grâce à Eva, nous avons un sondage qui nous montre que 11% se déclarent végétariens, végétaliens ou presque végétariens, presque végétaliens. 42% des Bruxellois et des Bruxelloises mangent végétarien au moins une fois par semaine. Et 45% des Bruxellois qui mangent de la viande disent souhaiter réduire leur consommation de viande. Donc ce sont quand même des chiffres assez conséquents et cette partie de la population n'est à l'heure actuelle pas encore assez représentée politiquement. Donc de façon générale, on voit qu'une majorité, voire une écrasante majorité se dessine lorsqu'on sonde la vie de la population sur ces différentes thématiques. Et pourtant, on voit qu'il y a un décalage, il y a un retard de la part du monde politique pour y répondre. Donc certaines mesures ont été adoptées, mais clairement, on attend toujours des avancées significatives en matière de protection animale. Donc c'est évidemment un problème pour des temps, pour des préoccupations de démocratie, de représentativité, que d'éthique animale évidemment. Parce que sans cet immobilisme, on aurait pu déjà avoir de belles avancées pour réduire les souffrances des animaux. Donc à Bruxelles, le gouvernement bruxellois est censé présenter un code du bien-être animal au Parlement d'ici la fin de l'année. Donc ce sera une refonte complète de la législation en matière de protection des animaux en région bruxelloise. Donc ce sera vraiment un moment important et on espère que ce gouffre entre les attentes des citoyens et la réponse politique qui y est apportée pourra se réduire au maximum et on verra à ce moment-là quels amendements il faudra déposer pour réduire davantage ce gouffre. Alors au-delà de la question démocratique, il y a évidemment la question morale. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Si une partie de mon travail au Parlement est de pousser pour l'adoption de certaines mesures spécifiques demandées par les citoyens, il y a aussi un travail qui consiste à faire entendre dans l'Assemblée, peut-être pour la première fois, certaines idées, certains concepts pour justement apporter les bases de la prise en compte des intérêts des animaux. Donc il s'agit de mentionner que ceux-ci ont des intérêts propres, de souligner qu'ils tiennent à leur vie, que ce ne sont pas des marchandises, et d'expliquer ce qu'est le spécisme et l'antispécisme. Donc c'est un travail qui est plus de fond et qui a, il me semble, deux vertus. La première vertu, c'est de permettre d'ouvrir la fenêtre d'Overton. Alors la fenêtre d'Overton, c'est un concept qui permet de tracer sur un axe une idée nouvelle pour qu'elle arrive in fine à devenir acceptée politiquement. Donc plus nous parlerons de la protection animale, des intérêts des animaux, plus nous parlerons de l'antispécisme, de l'animalisme dans l'enceinte politique, plus nous déplacerons ces revendications du bon côté de cet axe. Donc elles seront dans un premier temps de plus en plus audibles, jusqu'à devenir des concepts et des idées qui sont totalement acceptés. Et la deuxième vertu, elle est toute simple. Les politiciens, les décideurs, les parlementaires, ce sont des gens comme vous et moi. Donc ils ont des biais, ils ont des habitudes, ils ont une certaine éducation, ils ont des matières qu'ils maîtrisent, d'autres qu'ils ne maîtrisent pas. Et donc c'est un public qu'il convient aussi de sensibiliser, d'éduquer à la question de la conscience et de l'éthique animale. Donc clairement, pour moi, l'animalisme politique, c'est une façon de rattraper le retard entre les attentes citoyennes et la réponse politique en poussant des dossiers très concrets. Mais c'est aussi le moyen de faire résonner dans les enceintes politiques de revendications morales fondamentales pour préparer le terrain pour l'acceptation de mesures plus importantes en matière de protection des animaux. Pour autant, il ne faut pas avoir une compréhension trop restreinte de ce qu'est l'animalisme politique. Ce n'est pas une forme de militantisme qui serait réservée aux élus ou aux partis. Je pense que n'importe quel citoyen peut pousser pour l'adoption de mesures concrètes en faveur des animaux. Alors, quel est le cauchemar d'un parti politique ? C'est évidemment de perdre les élections. Alors pour les animalistes, pour les antispécistes, je pense que c'est une opportunité à saisir. C'est une opportunité pour renforcer cette crainte jusqu'à ce que les partis politiques ne puissent plus faire autrement que de présenter un programme ambitieux pour les animaux et de se saisir réellement de cette question. Donc l'enjeu est de politiser la question animale. Et par politiser, je ne veux pas dire la placer à gauche ou à droite de l'échiquier politique, mais en faire un véritable enjeu électoral essentiel, comme c'est le cas aujourd'hui pour la question climatique. Alors c'est le travail que font déjà certaines associations de protection des animaux. Donc on peut citer ici pour la France L214 qui a une plateforme qui s'appelle Politique et animaux. Vous la connaissez peut-être. Et sur cette plateforme, chaque action, chaque revendication des politiciens est répertoriée pour noter le degré de considération que le politicien a réellement envers les animaux. Un autre exemple, avant chaque élection, Gaïa sonde les différents partis pour connaître leur programme et ce qu'ils comptent faire pour les animaux. Donc ça aussi, c'est une manière d'aider les personnes qui sont sensibles à la cause animale dans leur choix et potentiellement aussi de mettre les partis face à leurs contradictions. Mais la démocratie, ça ne se limite évidemment pas au jour des élections. Si la démocratie participative est encore balbutiante en région bruxelloise, il y a tout de même d'autres moyens pour les citoyens de contrôler l'action des élus. Donc de manière individuelle, les réseaux sociaux sont vraiment une arme de communication importante pour les politiciens. C'est aussi une arme à double tranchant d'une certaine manière, parce qu'il est possible pour les citoyens d'interpeller les élus, d'interpeller les ministres, les personnes en charge, pour les informer et, si nécessaire, pointer leurs contradictions. Alors, le droit de pétition au Parlement a été facilité. Donc désormais, avec 1000 signatures de personnes domiciliées à Bruxelles, vous pouvez apporter vraiment une problématique au Parlement et l'auteur de la pétition peut venir expliquer devant les parlementaires qui sont en charge de cette problématique ses revendications. Donc c'est aussi un excellent moyen de se faire entendre par les parlementaires. Un autre moyen évident, c'est évidemment de s'investir dans une association de défense des animaux. Alors, les associations sont une importante source d'information pour les politiciens. Ce sont souvent même des partenaires de travail pour les parlementaires et ils font un travail très important de lobby auprès des gouvernements en faveur des animaux. Et enfin, évidemment, ils dénoncent et ils rendent publics certains agissements. Donc, on peut citer les victoires d'Animal Rights qui a permis la fermeture de certains abattoirs en rendant public des vidéos qui avaient été tournées en caméra cachée. Un autre exemple, c'est l'action directe qui a été organisée par XR Animal l'année dernière et qui visait à dénoncer les conditions et la vente de homards vivants dans les supermarchés. Donc pour moi, vraiment, ce type d'action, ce type d'action des associations, c'est une source hyper importante pour mon travail. Ça constitue vraiment une opportunité pour moi d'interpeller les ministres sur ces problèmes qui sont dénoncés. Et c'est un exemple vraiment d'interconnexion entre les associations et les politiques. Et enfin, la troisième possibilité, c'est tout simplement de s'engager en politique, peu importe le parti. Même sans être élu, il faut que cette question animale rentre dans les partis et qu'on pousse à ce que ce soit vraiment un enjeu important pour les partis politiques. Donc ce sera évidemment un travail de longue haleine, mais il faut se confronter aux visions qui ne sont pas forcément les mêmes que nous pour faire avancer les mentalités. Donc, en conclusion, il y a évidemment un décalage entre les citoyens et la réponse politique, d'où la nécessité de politiser cette question. Et pour l'instant, je suis seule au Parlement bruxellois, dans l'opposition, indépendante, donc je suis vraiment un peu isolée. Et forcément, si je veux qu'un texte soit voté, il faut que je trouve des personnes dans tous les autres partis politiques qui aient une certaine forme de sensibilité pour les animaux. Donc il faut que cette question soit au cœur de tous les partis et que les personnes sensibles à la question animale, que les antispécistes rentrent vraiment dans les parlements et dans les enceintes politiques. Et il est très efficace d'interpeller les élus, beaucoup plus efficace que ce qu'on pourrait croire. Ils sont beaucoup plus attentifs et influençables que ce qu'on pourrait croire. Voilà, je vous remercie.
Je vous laisse un peu de temps pour les questions-réponses.
Madame la députée, j'assiste pour le moment aux auditions du Sénat. L'article 23 de la Constitution que l'on pourrait changer par une petite phrase. L'animal devenant un être vivant, sensible, intelligent. Le problème, c'est qu'il faudra attendre un demi-siècle ou plus pour que les députés votent cette nouvelle loi. Et je vais vous dire pourquoi. Et ma question va suivre. Les éleveurs disent que les animaux sont de mieux en mieux traités dans les fermes. Et puis on en arrive à l'abattage. Et là, ça devient un enjeu politique. J'ai interviewé, je vous l'assure, une ancienne présidente du Sénat qui m'a dit « Ils sont bien les animaux, mais l'abattage va se faire de manière normale, clean. » Et puis, le Sénat pourrait voter pour l'animal être vivant à condition de séparer les animaux de compagnie et les animaux d'élevage, ce qui, pour toutes les personnes qui sont ici, est une ineptie, je pense. Parce que pour nous, comme vous, nous sommes des... Ben, j'ai rencontré Émeric Caron, je vous l'ai déjà dit, je suis antispéciste. Bon, bref. Alors, il faudra patienter. Mais ça veut dire qu'un jour ou l'autre, dans un monde parfait utopique, on mangera plus de viande et que vous pourrez à ce moment-là facilement faire passer toutes les lois sur le bien-être animal. Je vous dis simplement, je vous connais, si vous êtes aux élections pour un parti politique prochainement, je voterai pour ce parti politique.
Bonjour, félicitations pour votre engagement. Nous sommes Maurice Éloie et nous habitons la forêt, donc pas très loin d'Anderlecht. J'ai une question simple et directe. En tant que Maurice Éloie, devons-nous abandonner, baisser les bras en ce qui concerne l'étourdissement préalable?
Je pense qu'il y a une petite fenêtre d'action qui pourra encore s'ouvrir lors de cette législature. C'est le fait qu'il va y avoir le code du bien-être animal. Donc là, je pense que clairement, il y aura la possibilité de déposer un amendement pour proposer à nouveau, pour remettre de nouveau cette question sur le tapis, avec peut-être même une infinie meilleure chance cette fois-ci d'y arriver, parce qu'il y avait par exemple un groupe qui a eu aucun député qui a voté pour et qui disait que la raison pour laquelle il n'avait pas voté pour, c'était parce que ça devait rentrer dans le cadre d'un code plus global. Donc clairement, ce groupe-là, on devrait s'attendre à ce qu'il y ait un vote différent dans le cadre d'un amendement au code. Donc tout espoir n'est pas totalement perdu.
Ma question est plutôt politique. Quelles sont vos intentions pour les prochaines élections? Votre propre liste ou bien une alliance comme Émeric Caron l'a fait en France?
Eh bien, à Bruxelles, pour se présenter aux élections, il faut un parti. Donc je ne peux pas déposer une liste qui serait indépendante ou créer une liste et créer un parti. C'est vraiment pas du tout le travail que je veux faire. Donc il va falloir que je rejoigne un parti, ça c'est sûr et certain. Voilà.
Okay.
Surprise. Non.
Moi, j'ai une question sur l'expérimentation animale. Apparemment, on connaît les chiffres et les tendances, plus ou moins, de l'expérimentation animale à Bruxelles. Comment se fait-il qu'on les connaît? Est-ce qu'il y a, ils ont une obligation de rendre un peu compte de ce qu'ils font et de ce qu'ils ne font pas? Disons que c'est ça qui nous demande.
Oui, bien sûr. Donc, tout ça est répertorié et il y a aussi un contrôle sur ce qui va être fait à l'animal. Donc, c'est comme ça aussi qu'on a des données par rapport au niveau de souffrance des animaux. Donc, clairement, en Belgique, le niveau de souffrance est élevé dans l'expérimentation animale. Et ce sont les scientifiques eux-mêmes qui déterminent le niveau de souffrance qu'ils vont infliger à l'animal. Donc oui, il y a évidemment des règles, c'est encadré, et c'est comme ça qu'on a ces informations. Mais évidemment, ce n'est pas encore assez encadré que pour vraiment diminuer le nombre d'individus utilisés tous les ans.
Bonjour, Victoria.
Bonjour.
Je voulais rebondir sur la fin de la présentation, sur les moyens de faire avancer la cause animale, au niveau politique, etc. Moi, je vais en rajouter une en disant, n'hésitez pas à demander aux enseignants de vos enfants de travailler sur l'animal dans leur classe. Il y a des choses qui existent, il y a des outils pour eux pour travailler. Je pense que c'est important aussi que les parents soient demandeurs dans l'enseignement. Qu'on soit dans le maternel, dans le primaire ou dans le secondaire, de demander aux enseignants de travailler sur le sujet. C'est aussi un moyen de mettre la pression sur les enseignants, sur le politique et tout le reste. Donc voilà, c'était juste un conseil que je voulais donner aux gens qui étaient ici, qui ont des enfants, des petits-enfants.
C'est vrai que l'éducation, c'est très important. Et donc, il y a Refuge et Tableau Noir et Gaïa Animation aussi pour les enfants. Donc, ce sont de bonnes méthodes pour éveiller la conscience des plus petits.
Par une petite question politique, je suis française et aux dernières élections législatives en France, on a vu percer un parti qui est le parti animaliste, qui a surpris quand même pas mal le monde politique là-bas, puisqu'il a réussi à atteindre quasiment les 2%. Je voulais savoir, au niveau Belgique, est-ce qu'on pouvait attendre justement une mouvance dans ce sens-là, quel en est l'état de la Belgique?
Donc, en l'occurrence, j'ai été élue grâce à un parti animaliste qui avait été créé 2 ans avant les élections. Et puis, après 1 an que j'étais au Parlement, nos chemins se sont séparés et je n'ai plus vraiment de contact ou d'informations là-dessus. Il faudra demander à quelqu'un qui reste encore dans cette formation. Mais donc, je ne peux pas vous donner plus d'informations par rapport aux élections ici régionales pour un parti animaliste. Je ne sais pas vous dire s'il y en aura un ou pas.
Dernière question.
C'est pas une question, c'est pour enchaîner sur la réponse de Victoria, puisque Victoria était députée, moi député suppléant. Et effectivement, le parti animaliste en tant que tel, il n'a existé que le temps des élections et puis il a totalement disparu. Et je crains fort que. Enfin, j'ai rien entendu, moi, dans le sens d'un nouveau parti qui se dessinerait à ce niveau-là.
Un nouveau, non, mais.
L'ancien non plus, n'existe plus. Il n'existe plus.
C'est dommage de ne pas en créer.
C'est un travail à temps plein, hein. Créer un parti. Oui. Mais enfin. Il n'y a pas eu d'autres initiatives, à ma connaissance, de créer un nouveau parti. Et bon, moi, avec mon mandat au Parlement, je voulais vraiment faire un temps plein au Parlement et essayer de travailler sur la question animale au Parlement tant que je pouvais et pas créer un autre parti qui est tout à fait un autre travail. Mais, bon, c'est un choix personnel.